que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. C'est un texte assez surprenant de voir la réponse de Paul à cette situation dans laquelle il se trouve. Et Paul est en train de se réjouir de pouvoir informer à ses bienfaiteurs à Philippe de l'avance étonnante de l'évangile. Regarde ce qu'il dit dans le verset 12, juste pour reculer un peu. Il dit « Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Donc il y a l'avance étonnante de l'évangile que nous avons vu il y a 15 jours. Pourtant, au-delà de l'avance de l'évangile, parmi la garde prétorienne romaine, il y avait ce résultat. Plusieurs des frères chrétiens étaient rendus plus audacieux pour annoncer, pour partager l'évangile sans crainte. C'est ce que nous voyons dans le verset 14. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alors, avant de regarder plus de texte, je veux demander cette question. Qui sont ces frères dans le Seigneur, verset 14, qui sont à Rome? Je veux vous porter à trois passages qui vont nous éclairer au moins un peu quant à l'identité de ces frères. Et c'est un peu d'histoire, mais ça va nous aider, je crois, à comprendre la réponse qu'ils ont eue envers Paul, que nous voyons dans le verset 15, 16 et 17. Donc prenez avec moi Actes chapitre 2. Nous allons revenir à Philippiens. Mais regardez Actes chapitre 2, vous avez les quatre évangiles et puis vous avez le livre des Actes des apôtres. Et là, nous avons le récit de la Pentecôte. Et je veux juste souligner le fait que parmi ceux qui étaient présents à Jérusalem ce jour-là, quand l'Esprit est descendu et qu'ils ont parlé dans toutes ces langues différentes et que Pierre s'est levé pour prêcher la parole de Dieu, il y avait des gens qui étaient là, regardez le verset 10, de la Phrygie, de la Pamphylie, même de l'Égypte, donc c'est assez loin quand même, qui venaient du territoire de la Libye, voisine de la Cyrène. Et ce verset 10 qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Donc nous voyons, en venant de Rome, ce jour-là, le jour de Pentecôte, il y avait des juifs, il y avait des prosélytes. Un prosélyte était un païen qui s'est converti au judaïsme. Donc ils ont dû être baptisés cérémonieusement, ils ont dû offrir un sacrifice, et s'ils étaient mâles, ils devaient être circoncis. Et c'était ces personnes, sans doute, qui sont rentrées chez eux, qui ont annoncé l'évangile à Rome, et en tant que héros inconnus, ils ont fondé une église, peut-être des églises, dans ce qui était à l'époque la capitale du monde. Ce sont ces gens inconnus, ces frères. Prenez maintenant le chapitre 18, où il y a un détail historique qui est très intéressant. Actes chapitre 18, Paul est, en Actes 18, il est à Corinthe. Et là, il y trouva un juif nommé Aquila. Je lis Actes 18, verset 2. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Nous avons parlé il y a 15 jours de Claude, l'empereur, qui a marié la mère de Néron, et c'est comme ça que Néron est devenu empereur après lui. Mais vous voyez ce détail, ils sont venus d'Italie, c'est-à-dire de Rome, parce que Claude, l'empereur de Rome, avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Et nous savons que Claude était l'empereur de Rome juste avant Néron, et bien que la population juive à Rome se soit élevée à environ 40 000 personnes, donc quand même un nombre assez important, Claude, autour de l'année 49 ou 50, a simplement expulsé tous les juifs. Ils devaient tous partir. Et donc parmi eux était ce couple que Paul a rencontré après à Corinthe. Ils sont probablement pas tous partis et peu à peu les juifs sont revenus à Rome. Mais la question demeure, pourquoi de telles mesures draconiennes de la part de l'empereur? Pourquoi est-ce qu'il les a chassés tous de Rome? Et nous avons un détail dans l'histoire très intéressant, parce qu'il y a un homme qui s'appelle Suétone, c'est un polygraphe, un érudit romain, qui est principalement connu pour son livre « Les vies des 12 Césars ». Et il nous indique que Claude a expulsé les Juifs sous le prétexte d'agitation, et je cite maintenant, « sous l'impulsion d'un certain Crestus ». Donc selon lui, cet historien romain, c'est Claude qui a expulsé tous ces juifs à cause d'une agitation parmi les Juifs qui était causée par un certain homme appelé Christus. Or, le nom Christus est la forme romaine du mot Christ ou Messie. Donc, il y avait une certaine discussion et même agitation autour d'un Messie qui venait aux Juifs, qui a causé une telle malaise dans la communauté juive à Rome que Claude a jugé nécessaire de simplement d'intervenir personnellement et de les chasser tous de la ville de Rome. Alors, quand Paul est à Corinthe, il rencontre ce couple. Mais vous n'avez pas besoin de le regarder si vous voulez pas, mais si vous regardez Romains 16, le dernier chapitre en Romains, quand il écrit maintenant aux chrétiens qui sont à Rome, ça c'est maintenant plusieurs années après cette expulsion des Juifs de la ville de Rome, il dit en Romains 16, 3, « Saluez Prisca, qui est une autre forme du mot Priscille. » Nous avons un Prisca parmi nous ce matin. « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Donc, ils étaient évidemment de retour à Rome, quand Paul écrit cette lettre. Probablement beaucoup de Juifs étaient aussi avec eux maintenant à Rome. Mais cette évacuation obligatoire restait sans aucun doute toujours présente dans la mémoire des Juifs. Et pensez, il n'y a pas longtemps, on a dû tout quitter la ville pendant un certain temps. Maintenant, on peut revenir, mais on ne veut pas répéter cette même expulsion. Et donc, maintenant, avec ça comme contexte, imaginez la réticence des croyants d'annoncer leur présence à Rome. Ils ont probablement jugé que ce serait plus prudent de rester discret, de ne pas provoquer de grands remous, de ne pas émouvoir l'opinion publique contre eux. Personne voulait une répétition sous Néron maintenant de l'expulsion qu'ils ont subie sous Claude. Et alors c'est que Paul arrive maintenant à Rome pour faire partie de ce qui était sans doute un procès très en vue, probablement même très médiatisé. Son emprisonnement à cause de Christ, à cause de Christus, est devenu bien connu parmi toute la garde. Regardez le verset 13, en effet, on est de retour en Philippiens chapitre 1, mais en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ, c'est pour ce Christus que je suis maintenant dans les liens à Rome. Et donc là, il est de retour, tout le monde connaît, tous les fonctionnaires romains connaissent que Paul est là pour cette raison. Et c'était probablement une combinaison de, en premier lieu, le comportement exemplaire de Paul sous l'épreuve, et deuxièmement la faveur qu'il a reçue parmi les fonctionnaires romains, verset 14, qui a causé la plupart des frères dans le Seigneur d'être encouragés par ses biens et d'avoir plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Donc il retourne à Rome dans les biens, lui il n'a pas honte de l'évangile, ça donne de l'assurance maintenant aux autres croyants de ne pas avoir honte non plus. Mais vous savez, tout n'allait pas comme sur des roulettes, même dans l'église de Dieu. Et Paul, dans son honnêteté et sa transparence, il est peu disposé à dissimuler la vérité. Et donc il dit dans le verset 15, regardez-le, Philippiens 1, 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute. » Les versets 15 à 18, c'est notre texte pour aujourd'hui, nous trouvons les personnes mentionnées divisées en trois groupes différents. Vous pouvez le voir, notez le verset 15, vous avez quelques-uns, et puis plus tard vous avez mais quoi ? Mais d'autres. Donc deux groupes. Dans le verset 16, vous avez ceci, dans le verset 17, tandis que ceux-là, deux groupes. Dans le verset 18, vous avez ceux qui le font pour l'apparence et ceux qui le font sincèrement, encore deux groupes. Donc il y a manifestement deux groupes de croyants qui ont, verset 14, plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et nous pourrons placer Paul, car c'est lui qui est central ici, dans une troisième catégorie. Donc il y a trois groupes de personnes. Il y a trois prédicateurs différents. Deux groupes plus Paul. Et ces trois groupes n'ont pas différé entre eux en ce qui concerne leur doctrine, car ils étaient tous frères, leur contexte géographique, car ils étaient tous à Rome, et leur pratique, car ils prêchaient tous l'évangile. C'est un point à souligner. Regardez le verset 15. « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ. » Alors plus tard, « Mais d'autres le prêchent, prêchent Christ. » Donc, les deux groupes prêchent Christ. Regardez le verset 16. « Ceux-ci agissent, ce qui est impliqué en prêchant Christ, verset 17, tandis que ceux-là Et puis il le dit, annonce Christ. Et puis dans verset 18, il dit, qu'importe de toute manière, Christ n'est pas moins annoncé. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est le fait que ces trois groupes n'ont pas différé entre eux en ce qui concerne leur doctrine ou leur pratique. Ils prêchaient tous l'évangile, plus exactement Christ. C'est important parce que certains essayent d'employer ces versets pour réduire au minimum l'importance de la doctrine. Ils disent, bon, s'ils parlent de Christ, c'est ça qui suffit. Non, Paul va plus tard, en chapitre 2, il va parler de ceux qui prêchent Christ dans une mauvaise façon, avec une mauvaise doctrine, il va les appeler chiens. Donc Paul n'est pas pour la fausse doctrine. Mais le fait ici, c'est qu'ils ont tous la bonne doctrine. Ils prêchent tous Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une question de doctrine différente selon qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait, son importance, son identité. Non, ils sont tous en commun, ils sont tous d'accord avec la doctrine de Jésus-Christ. Ils prêchent Christ en vérité, mais ils diffèrent particulièrement les deux premiers groupes, pas dans ce qu'ils ont prêché, ou même comment ils ont prêché, ou même là où ils ont prêché, mais dites-moi, dans la raison pour laquelle ils ont prêché. Ils différaient à cet égard leur motif. Et donc c'est pour ça que je veux considérer ce matin ces motifs différents. Et nous allons voir la tragédie des motivations cachées, la beauté des motivations pures et la puissance des motivations désintéressées. Donc, considérez premièrement, tout d'abord, la tragédie des motivations cachées, ou on peut dire des arrière-pensées. Une arrière-pensée est une intention qui est cachée et qui est différente que celle que l'on exprime. Donc, je vous offre du poison et je vous dis, c'est pour votre santé. Voilà une arrière-pensée. Et regardez les termes descriptifs que Paul utilise pour décrire ce premier groupe de chrétiens. Il prêche, verset 15, regardez-le, on n'y croirait pas. Mais il prêche Christ, quelques-uns, il est vrai, prêche Christ par envie, par esprit de dispute. Verset 17, animé d'un esprit de dispute, encore un autre mot dans le grec. Ils annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Ils annoncent Christ avec la pensée, le désir de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Et c'est pour ça qu'ils prêchent Christ. La première chose que je voudrais que souligner au sujet de ce premier groupe est le fait qu'ils prêchaient Christ. Ils ne prêchaient pas notre évangile ou un évangile perverti. Paul n'a rien de négatif à dire au sujet de leur doctrine. Le problème n'était pas avec leur credo, mais avec leur cœur. Et notez comment Paul souligne ce fait qu'ils ont prêché l'évangile. Il le souligne dans le verset 15. Regardez, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ. Et puis il le dit à la fin du verset, d'autres prêchent Christ avec des dispositions bienveillantes. Il le répète, ils prêchent Christ et les autres prêchent Christ. Regardez le verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ. Cette expression « prêche Christ », surtout dans verset 15, dans la deuxième partie, aurait pu être omis, mais il donne la répétition du fait qu'il prêche Christ, je crois pour préciser le contraste tragique quand on prêche Christ, mais avec un manque de sincérité. Ils font de la bonne chose, mais par des mauvaises motivations. C'est pour ça qu'on appelle ce premier groupe la tragédie des arrière-pensées ou des motivations cachées. Et la Bible dit que l'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu regarde où ? Il regarde au cœur. Donc pour Dieu, c'est pas seulement l'action qui compte, bien que l'action doit être juste et droit, et c'est important, mais c'est la motivation derrière l'action qui est aussi important pour Dieu. Donc regardez ce qui motivait ces personnes-là. Et en même temps, cherchez dans nos propres cœurs pour savoir si nous avons ces mêmes choses aussi. Hein, nous ne sommes pas comme eux, n'est-ce pas? Nous ne sommes jamais aussi pires que les autres. Mais il se peut qu'il y a ces mêmes racines de péché dans nos cœurs. Ils prêchaient Christ, nous voyons dans le verset 15, par envie. Par envie. Qu'est-ce que ça veut dire envie? Le mot utilisé dans le texte. Ce même mot en grec était, selon Aristote, pas simplement le désir d'avoir ce qu'une autre personne possédait, mais avant tout le souci de priver l'autre personne de la chose désirée. C'était ça avant tout. Pas seulement de l'avoir pour soi-même, mais de priver l'autre personne de l'avoir. Si c'est quelque chose de beau ou de belle, on ne veut pas simplement l'avoir pour nous-mêmes, c'est on veut pas que l'autre l'aille. Vous pensez aux deux femmes, aux deux mères qui avaient ces deux enfants au temps de Salomon. Et Salomon, il propose, parce qu'il se dispute, c'est à moi le fils, c'est à l'autre le fils. Il y avait deux mères qui réclamaient l'enfant comme la leur. Et Salomon a dit, bon, ce qu'on va faire, on va prendre une paire, on va le couper en deux. Comme ça, ni l'un ni l'autre a l'enfant. Il y a une mère qui dit, ah d'accord, ça me va. Au moins, il n'y a pas l'autre qui a l'enfant. Et bien sûr, l'autre, elle a dit, non, je préfère qu'il reste en vie. Mais cette envie qui désire pas simplement d'avoir quelque chose, mais de priver l'autre personne de la chose désirée. En Matthieu 27 et en Marc chapitre 15, la Bible indique que c'est ce mot qui motivait les principaux sacrificateurs de vouloir crucifier Jésus-Christ. Marc 15, verset 10, nous dit que Jésus savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Donc c'est une motivation diabolique. C'est l'envie qui a porté les Juifs à crucifier Jésus-Christ. Et maintenant, c'est cette même envie qui porte d'autres à prêcher Jésus-Christ. Imaginez ça. Ils ont la même motivation. Nous trouvons ce mot encore, ne cherchez pas, mais nous trouvons ce mot encore en Galates chapitre 5, verset 28, où il est une des œuvres de la chair, l'envie. En Romains chapitre 1, verset 29, la Bible emploie ce mot pour décrire ce que Dieu a livré à un sens reprouvé pour commettre des choses indignes, donc c'est une des choses indignes. En Tite chapitre 3, verset 3, nous trouvons dans une liste de ce qui caractérise la vie avant la conversion. Dans 1 Pierre 2, nous voyons que c'est quelque chose qui doit être rejeté par ceux qui désirent grandir dans le Seigneur. Et dans 1 Timothée 6, nous voyons que c'est manifesté par quelqu'un qui est enflé d'orgueil, ignorant et qui a une passion maladive pour des spéculations et des controverses sur des mots. Donc c'est quelque chose que Dieu est. Et là, nous le trouvons dans des pasteurs, dans des prédicateurs, pendant qu'ils sont en train de prêcher l'Évangile. Vous savez, vous pouvez venir à l'église, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez aider un ami, une amie, même un étranger, une étrangère, par envie. Et maintenant, dans l'église de Dieu, vous avez ces chrétiens qui sont en train de servir Dieu, de prêcher Christ, par cette même motivation. Ce qui commence par l'envie finit par quoi? Par des disputes, n'est-ce pas? Et donc, il dit dans le verset 15 aussi, c'est par un esprit de dispute. Verset 15. Ce qui peut être traduit discorde ou controverse, mais souvent associé avec l'envie. Et c'est le résultat de l'envie. Proverbe 13, 10 nous dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles ou des disputes. Donc c'est motivé par un esprit de dispute qu'il prêche l'Évangile. Est-ce que vous n'avez jamais senti ça en vous, cet esprit de dispute qui vous amène à faire même du bien à votre épouse, à votre époux? Vous dites, oh, si c'est comme ça, bon, ok, je te donne ce que tu veux. Ah, mais ce n'est pas d'amour. C'est plutôt par un esprit de dispute qu'on est motivé, comme ces gens ici. Le verset 17 continue à décrire ce groupe des croyants, regardez-le, ça devient encore pire, tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Là, la phrase esprit de dispute en verset 17, vous pourriez mettre la phrase ambition égoïste, c'est plutôt le sens du terme, une ambition égoïste. Et ce mot est trouvé avant les temps du Nouveau Testament. C'est que Aristote qui l'utilise, et il l'utilise pour dénoter la poursuite égoïste d'une fonction politique par des moyens injustes. Quelqu'un qui cherchait des fonctions politiques par des moyens injustes. Et Paul, il prend ce mot, connu dans la vie courante, et il l'utilise pour décrire la motivation de ceux qui maintenant prêchent Christ. Pour se faire voir, pour se faire connaître. Il y a beaucoup de ministères dans l'église où c'est fait pour se faire voir. Et on dit, ah, est-ce que vous voulez faire le ménage? Ah non, je ne veux pas faire le ménage, il n'y a personne qui le verra. Ah, mais est-ce que vous voulez enseigner une classe biblique, ou aider avec ceci, ou chanter, ou... Ah oui, bien sûr! sûr, bien sûr, bien sûr, bien volontiers. Et puisque vous êtes en Philippiens, regardez le chapitre 2 et le verset 3, où il dit « Ne faites rien par esprit de parti ». Et c'est le même mot, c'est le mot traduit « esprit de dispute » dans chapitre 1, verset 16. Ça veut dire une ambition égoïste ayant pour résultat des différends. Un peu ça le sens du terme. Et donc il dit « Faites rien par cet esprit de parti ». Ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, comme étant plus important que vous-même. C'est ça qui doit nous porter, qui doit nous mener dans toutes nos actions envers les autres. Et puis je veux vous lire quelques versets en Jacques, chapitre 3, où il avertit contre l'égoïsme, contre l'autopromo, comme on dit, qui existe dans le cœur. Et Jacques chapitre 3 et verset 14, la Bible dit cela. Jacques chapitre 3 verset 14, écoutez. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, c'est ce même mot. Cette ambition égoïste qui a pour résultat des différends. Si vous avez cet esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et même diabolique. Même si vous prêchez Christ. Car là, dans le prochain verset, il dit, car là où il y a un zèle amer et, encore le mot, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Par contre, dit-il, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, elle veut la paix, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, l'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc vous saurez que c'est la sagesse divine quand vous regardez la vie de la personne qui est en train de la démontrer. Voici la sagesse divine. Mais ceci, y prêchait Christ. Ils enseignaient la parole de Dieu, ils servaient dans l'Église par un esprit de dispute. Et pour retourner en Philippiens chapitre 1 et verset 17, la deuxième partie, nous voyons qu'ils annonçaient Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Et puis il explique qu'ils prêchent Christ avec cette arrière-pensée, ce but à l'esprit, d'ajouter davantage d'affliction à Paul à ce qu'il éprouve déjà dans son emprisonnement. Ils veulent l'embêter, comme on dit. Il est déjà en prison, il est déjà dans les chaînes, et là ils veulent ajouter encore d'affliction à ce qu'il connaît déjà. C'est stupéfiant, n'est-ce pas? On dit comment pouvait-il faire quelque chose aussi belle que la prédication de l'Évangile par des motivations aussi impures que de vouloir faire mal à l'apôtre Paul? Nous, on n'aurait jamais fait quelque chose de pareil. Eh bien, je vous dis que si Paul était notre pasteur, on aurait été tenté. On aurait été tenté. Et nous pourrions spéculer sans fin au sujet des facteurs impliqués dans cette rivalité, mais je crois que c'est clair que cette opposition à Paul, dans son ensemble, était le résultat d'une rivalité personnelle. C'était contre Paul qu'il voulait quelque chose. Elle était centrée sur des personnalités comme tant d'autres conflits parmi les chrétiens et les non-chrétiens. Vous rappelez-vous de la situation à Corinthe, dans le chapitre 1, Paul il écrit, il a dit, ah il y a ceux qui disent, ah, moi je suis de Paul, et puis il y a d'autres qui disent, moi je suis d'Apollos, et d'autres qui disent, moi je suis de Christ. Et ici c'est un peu ce qui s'est produit à Corinthe, je crois, était probablement ce qui était répété ici à Rome, sauf qu'ici à Rome c'était un sentiment négatif contre Paul qui a uni ces personnes. Ce qui les a unis, c'est ce sentiment négatif contre Paul. Vous savez, il y a peu qui est plus efficace pour unir deux personnes qu'un petit sujet de plainte. Tout ce qu'il faut pour rendre deux personnes très proches dans l'Église, c'est qu'ils partagent une certaine plainte au sujet de, je sais pas, du pasteur ou quelque chose d'une autre personne dans l'église ou une autre famille étudiant ou quelque chose qui est fait. Et là, tout d'un coup, ils s'entendent comme larrons en foire, unis comme les doigts de la main. tout proche, ou comme on dit en anglais, ils deviennent plus proches que deux petits pois dans une cosse. Donc là ensemble, ils sont unis. Mais ils ne sont pas unis en Christ, ils sont unis dans le malcontentement. Et ils continuent à servir dans l'Église, mais maintenant ils font ce qu'ils font par un esprit d'envie, par un esprit de rivalité, ou avec l'attitude d'un martyr. Donc ils font la même chose, mais maintenant c'est l'ambition qui change, c'est la motivation qui change. Il faut faire très attention quand on est en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Après un certain temps, il est facile de devenir fatigué dans ce que nous faisons, et nous ne faisons plus pour la gloire de Dieu. Nous faisons par obligation, ou même, ça peut y arriver par envie, ou par esprit de dispute. Donc, ce qui est en question ici dans le texte, ce n'est pas ce que vous faites, cela est pris comme allant de soi. Ce qui est en question ici, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Le pourquoi. Hein, qu'est-ce qui vous motive? Et il n'est pas assez de servir Dieu, il n'est pas assez d'aller à l'église. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Est-ce que vous vous apitoyez vous-même? Ou souhaitez-vous même le mal sur quelqu'un d'autre? C'est ça les questions qui sont posées ici. C'est la tragédie des motivations cachées. Et si Dieu venait aujourd'hui et il révélait d'un seul coup toutes nos motivations, nous aurons honte, j'imagine. Et c'est pour ça, mes amis, que nous avons besoin d'un sauveur. Parce que nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Vous savez, même nos prières sont remplies de péchés. Il n'y a pas une prière parfaite. Il n'y a rien de parfait qu'on peut offrir à Dieu. Tout est rempli de nos fausses ambitions, même si on ne le sent pas. Ils sont là. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur. Nous voyons ici aussi la beauté, deuxièmement, des motifs purs. Parce que Dieu peut, bien sûr, pas s'empêcher, mais il y a des motifs purs qui peuvent être exprimés dans ce que nous faisons. Et voici, vous avez ce deuxième groupe de chrétiens, et je souligne encore le fait qu'ils sont impliqués dans exactement la même activité que ceux qui prêchaient Christ par envie et par dispute, mais ceux-ci, ils prêchent Christ avec des dispositions bienveillantes. Vous voyez ça dans le verset 15, des dispositions bienveillantes envers qui? Bon. Le contexte ici, c'est une rivalité personnelle envers Paul, et donc j'imagine que les dispositions bienveillantes, c'était aussi envers Paul. C'était par amour envers Paul. Ils étaient éhontés de Paul. Ils n'avaient pas honte de Paul, parce qu'ils reconnaissaient la main souveraine de Dieu dans son emprisonnement. Et le verset 16, regardez, indique qu'ils étaient motivés par quoi? Ils étaient motivés par quoi? Qu'est-ce que ça dit? Verset 16. Vous y êtes? Ils étaient motivés par... C'est pas dur, hein? Par quoi? Par l'amour. C'est bien ça le verset 16? Vous savez, les motivations pures sont tellement plus simples et moins complexes que les motifs faux. Il y a quelque chose de beau dans la pureté, la simplicité de leur motivation. Ils étaient pleins d'amour, ils étaient pleins de dispositions bienveillantes envers Paul. Et la différence entre ces deux groupes était une différence des motifs, des motivations, mais également des perspectives, parce que vous notez que le groupe en verset 16 savait quelque chose. L'autre groupe supposait quelque chose. Il supposait, il voulait ajouter de la peine. Il voulait ajouter d'affliction à la vie de Paul, même qu'il se trouve en prison. Mais ce groupe ici, il savait quelque chose, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Il savait que Paul était établi par Dieu pour la défense de l'évangile. Donc il savait que Paul était placé là où il était, pas par ses propres erreurs de calcul ou un jugement erroné, pas en raison d'une certaine méthodologie défectueuse, pas par hasard, mais par l'opération de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui lui a placé là. Et parce qu'il voyait la main de Dieu dans les circonstances de Paul, ils ont répondu avec des dispositions bienveillantes et avec l'amour. Et ça peut changer plein de choses pour nous, quand nous reconnaissons la main souveraine de Dieu. Souvent nous voulons dire, ah mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? On n'aurait pas eu ces problèmes s'il aurait agi tellement. Non, non, mais si on reconnaît que la main souveraine de Dieu est placée dans toutes ces circonstances, que c'est lui qui a mené les choses pour qu'ils développent dans le sens qu'ils ont développé, eh bien nous pouvons répondre avec des dispositions bienveillantes, parce que nous savons que Dieu est impliqué dans l'affaire. C'est pour ça qu'on se fâche contre les personnes, même dans des disputes dans la famille, on se fâche parce qu'on dit, ah c'est sa faute, c'est lui qui aurait dû faire ça, s'il aurait fait autrement, la vie ben, serait autrement. Et donc on ne voit pas la main de Dieu, on ne voit que la main des autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des amertumes à cause des choses qui sont passées dans leur passé, à cause de leur, peut-être leurs parents, il y a 20 ans, 25 ans, parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas la main de Dieu, ils ne voient que la main des hommes et des femmes, et donc ils sont remplis d'amertume, de la haine, d'esprit de dispute, de l'envie, parce qu'ils refusent de reconnaître que c'est Dieu qui a placé cette personne dans leur vie, que c'est Dieu qui les a placés dans ces circonstances, que c'est la main de Dieu qui agissait. Et ce groupe ici, il savait que Paul était placé là par le Dieu souverain. Donc est-ce que nous pouvons voir la main de Dieu? Est-ce que nous pouvons apprendre à identifier la main de Dieu dans chaque situation pour pouvoir bien répondre à la situation, bien réagir? Et puis nous regardons à Paul et nous voyons la puissance des motivations désintéressées. J'utilise le mot désintéressé dans le sens de ce qui n'est inspiré par la recherche d'aucune composition personnelle, qui manifeste ou qui s'accomplit sans demande de réciprocité. Ah, je lis depuis le dictionnaire. C'est la motivation désintéressée de Paul. Regardez la réaction de Paul. Et ce que cela m'indique, c'est que vous pouvez être au centre de la volonté de Dieu, faisant la volonté de Dieu, être impliqué dans le ministère même de l'Évangile, être en train de souffrir même pour votre foi, et en même temps, avoir vos critiques chrétiens. Avoir même des frères et sœurs qui vous critiquent. Mais on ne va pas parler des critiques. Ce que nous voulons voir ici, c'est la réponse, la réaction à ces critiques. Et voici Paul, il est confié dans les chaînes depuis 4 ans là. Il avait déjà souffert joyeusement, mais maintenant on ajoute ceci, on ajoute des chrétiens qui emploient son affliction pour se faire un nom et pour lui causer une plus grande peine. Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un qui dit « Ah là là, là non, là j'étais patient, j'ai attendu, mais là je peux plus, maintenant je peux plus. » Comme si maintenant on a le droit de réagir dans une sens charnelle. Hein, j'ai mes limites. Et Paul aurait pu dire cela. 4 ans en prison, et maintenant, c'est pas les Romains qui le veulent, c'est ses frères et sœurs en Christ. Pourtant, au milieu de tout cela, l'activité de Paul n'est pas de se justifier lui-même, il n'est pas dans un état accablant de pitié pour soi-même, mais plutôt il est dans la joie au progrès de l'Évangile. Vous voyez qu'il dit en verset 18, « Ah, je m'en réjouis de ce qu'au moins Jésus-Christ est annoncé. » Il est connu. C'est la même attitude de Jean-Baptiste. Quand ses disciples sont venus envers lui, ils ont dit, oh, vous savez, le rabbin Jésus, là, il a maintenant plus de personnes qui vont chez lui pour être baptisées que qui vient chez toi. Hein, son église est plus grande maintenant que la tienne. Et comment est-ce que Jean a répondu? Il a dit quoi? Il a montré la joie que son ministère, que lui-même puisse accroître et que moi-même je puisse diminuer. C'était son attitude, et c'est l'attitude de Paul lui-même. Il a des motivations désintéressées quand il concerne ses propres intérêts, le fait qu'il soit proprement remercié, reconnu, admiré par les hommes. Il s'en soucie pas de ces choses. Lui, il pense que au progrès de l'Évangile et du fait que Jésus-Christ est annoncé. Alors, est-ce que vous pouvez réjouir dans le fait que Jésus est annoncé, même si vous-même vous êtes oublié? Et l'épreuve décisive, j'essaie de réfléchir à ceci, je crois que l'épreuve décisive pour révéler pourquoi vous faites ce que vous faites est d'enlever ce résultat. Parfois on dit, bon, on ne fait pas ça pour être remercié, ben enlevez tous les remerciements et nous allons voir. disons que votre patron au travail, il vous envoie un petit mot de remerciement chaque semaine avec votre chèque de paye. Hein, vous avez ce petit mot. Merci pour votre travail cette semaine. Merci pour votre travail cette semaine. Et puis, une semaine, il décide simplement de vous donner le chèque, mais sans aucun mot de remerciement. Est-ce que ça vous embête, vous donne de la peine? J'imagine que pas trop, hein. Mais imaginez que la semaine suivante, il décide de changer un peu, il vous envoie un petit mot de remerciement, mais sans le chèque. Alors là, est-ce que vous êtes toujours content? J'imagine que non. Parce que vous avez travaillé pour avoir le chèque, pas pour avoir le mot de remerciement. Alors disons que votre travail est de polir les poignées de porte. On va dire que c'est à vous de le faire. Et vous dites que vous le faites pour la gloire de Dieu, pas pour être vu des hommes. Mais chaque semaine, le pasteur se met derrière le pupitre et il vous remercie de tout cœur pour avoir bien poli les poignées de porte. Quel beau travail, bien fait, tout ça. Et puis l'épreuve décisive pour révéler pourquoi vous faites ce que vous faites et d'enlever le résultat. Et qu'un jour personne ne vous dit merci, vous avez préparé ce repas pour le repas fraternel et il n'y a aucun étudiant qui vous dit merci. Ce qui est d'ailleurs pas une bonne chose, hein. Ou vous avez fait la vaisselle après le repas, il n'y a personne qui vous dit merci. Alors ça, c'est une épreuve pour voir pourquoi vous faites ce que vous faites. Est-ce que vous recevez les résultats que vous attendez? Et regardez le verset 18. Ça prend la maturité pour se réjouir dans la souffrance. Mais moi, je crois que ça prend une maturité encore plus grande pour se réjouir quand un frère profite de votre malheur pour avancer sa propre cause. Mais Paul dit, verset 18, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis. Paul ne se réjouissait pas dans l'envie ou dans les différences, c'est pas ça. Mais malgré cela, il pouvait se réjouir parce que l'évangile était prêché. Je crois que nous sommes loin de ce qu'était Paul. Nous sommes très loin de ce qu'était Paul. Alors je vous demande, pourquoi vous faites ce que vous faites? Quand vous êtes confronté à un frère ou une sœur comme ceux qui s'opposaient à Paul, pourrez-vous néanmoins vous réjouir si Christ est prêché, si l'Église est édifiée, même si vous-même êtes en train de souffrir? Ça prendra une puissance surnaturelle. Ça prend la grâce de Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici, vous ne savez pas ce que ça vous dit, hein, pour vous la vie, c'est pour faire quelque chose de soi-même, c'est pour avancer sa propre cause. Parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui le fera. Il faut se battre pour soi-même. Si pour vous c'est ça la vie, bien, je vous invite de venir à Christ, de connaître une vie qui est complètement différente, une vie que Dieu nous donne par son esprit, la vie de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de toujours passer la vie à se battre et à se défendre, à se justifier et à chercher toujours d'avancer son propre cause. On peut tout donner à Dieu, que la Bible dit fera tout juste et tout beau dans son temps. Considérons nos motivations et prions ensemble. Seigneur Jésus, nous considérons nos propres vies et nous voyons que souvent ce que nous faisons, même une bonne chose, soit dans le sein de la famille ou à l'église ou dans le monde, est fait pour être vu des hommes, comme les pharisiens faisaient ce qu'ils faisaient. Et ce n'est pas fait pour ta gloire seule. Donne-nous un si grand amour pour toi, que par amour pour toi, nous ferons ces choses pour ta gloire. Et donne-nous un si grand amour pour les uns les autres, que nous ne ferons plus rien par envie ou par esprit de dispute, mais avec l'humilité, nous puissions regarder les uns les autres ici comme étant plus importants et au-dessus de nous-mêmes. Donne-nous cette unité en Jésus-Christ qui se démontre dans l'humilité et des motivations bienveillantes et pleines d'amour, comme le deuxième groupe qui prêchait l'évangile à Rome. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et donc qui n'ont aucune puissance de faire quoi que ce soit pour ta gloire,
crée 20 fois à leur cœur qu'ils puissent te connaître et le salut qui est en Christ. Car c'est dans le nom de Christ que nous prions. Amen. Amen.